Interview.
2 pour l'interview. Aujourd'hui, nous recevons le sujet du projet alimentaire de territoire. Et donc, pour cela, nous avons au studio Yves Brajeul. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la coordination du programme Mangeuse-Mangeur, organisé dans ce cadre du projet alimentaire du territoire. Et ensuite, nous avons Anne Rouche. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chargée de mission alimentation, toujours au sein du projet alimentaire du territoire. Et ensuite, Pauline. Bonjour.
Bonjour.
Et vous êtes agissante à l'association La Trame et donc impliquée également aussi sur ce projet. Cela fait plusieurs mois que est lancé ce projet. On peut peut-être établir un bilan de ce qui a été fait jusqu'à présent, et à commencer par Anne, vous avez peut-être un mot à dire dessus.
Oui, alors le projet alimentaire du territoire, ça fait déjà un peu plus d'un an maintenant qu'on se déploie sur le Diwa et qu'on essaye de mettre l'alimentation locale au cœur du projet de la société diwaise. Et depuis début 2023, donc depuis le début de l'année, là, on a lancé un programme qui s'appelle Mangeuse-Mangeur et qui a vocation à créer du lien entre l'alimentation locale et les personnes qui en sont éloignées. Et dans le cadre de ce programme, on a vraiment souhaité laisser la main à ceux et celles qui savent faire sur le territoire, qui ont des liens avec les habitants, les habitantes. Et donc on a 9 structures, que ce soit des associations ou des collectifs de producteurs qui expérimentent des actions qui permettent de créer du lien. Et on en a quasiment la moitié qui a déjà démarré depuis le mois de mars. Et le programme commence à avoir une sacrée actualité.
Je le rappelle, donc ce projet alimentaire permet de développer et améliorer l'offre alimentaire territoriale, de faciliter la consommation de produits locaux, sensibiliser les habitants et l'alimentation à l'alimentation facteur de protection de la santé, rendre l'accessibilité à une alimentation de qualité et faciliter l'aide alimentaire. Donc voilà le programme de ce projet. Vous vous êtes tenu à ces conditions et donc il y a eu beaucoup de déclinaisons depuis ce lancement. Et vous êtes ici pour nous parler de ces repas préparés en commun qui se déroulent en ce moment sur le Diwa, le Haut Diwa, et les prochaines dates étant le 19 et 22 juin et le 5 juillet également. Alors Yves Brajeul, vous êtes en charge de cette coordination pour Mangeuse-Mangeur. Quel a été un peu ce rendu aujourd'hui?
Du coup, aujourd'hui, on en est donc à peu près au milieu de l'année. Et il y a, comme Anne l'a dit, environ la moitié des projets qui ont déjà été mis en œuvre. Et donc aujourd'hui, on a déjà eu des événements sur pas mal de lieux de vie, de bassins de vie du Diwa. Donc par exemple, à Luz-la-Croix-Haute, on a eu une semaine de l'alimentation en mai. Là, le 19 juin prochain, ce sera à La Motte-Chalancon qu'un grand repas sera proposé par l'accorderie du pays Diwa et l'espace social et culturel du Diwa. On a des événements à Di qui reviennent donc chaque mois. Par exemple, les popotes du dimanche, qui sont un grand repas cuisiné ensemble sur la place publique, organisé par un collectif de citoyens et de citoyennes. On a aussi l'offre de traiteurs de l'association La Trame, qui accompagne les personnes en difficulté administrative et qui les forme au métier de traiteur. On a dit aussi la corderie du pays d'Iwa qui propose des repas partagés dans ses locaux avec un partenariat partager ce repas avec des personnes qui sont potentiellement en situation de précarité alimentaire. Et donc le dernier était avec l'association Petits Frères des Pauvres, Adi.
Pauline Planck, donc, vous êtes agissante au sein de l'association La Trame, en partenariat donc, avec cette organisation. Pour vous, qu'est-ce que ça apporte, ce que propose La Trame ?
Alors, ce que propose La Trame ou ce que propose le programme Mangeuse-Mangeur, je vais parler des deux. Mais du coup, donc nous, à La Trame, donc on accueille, comme l'a dit Yves, des personnes qui sont en difficulté sociale, administrative, qui n'ont pas la possibilité de se loger, qui ont des difficultés pour obtenir des titres de séjour. Et donc, on a deux activités qui sont la cuisine et l'entretien d'espaces verts. Et donc, sur la cuisine, on propose des offres de traiteurs pour des événements. Mais on souhaitait aussi développer une offre qu'on peut appeler traiteur aussi, en tout cas pour plus régulière, une offre plus régulière de repas le midi, qui soit aussi un prétexte pour des ateliers, on va dire, pédagogiques autour de la cuisine, des métiers de la cuisine et de l'alimentation, donc qui sont encadrés par une personne, une professionnelle de la cuisine actuellement, peut-être plusieurs à plus long terme.
Que l'on peut présenter aussi.
Qui s'appelle Perrine. Voilà, et qui est cuisinière indépendante. Et donc, l'objectif, c'est à la fois d'apprendre des gestes de cuisine, des règles d'hygiène, les noms des ustensiles qui ne sont pas toujours du langage commun, et de pouvoir proposer des repas différents. Donc, c'est un jeudi sur deux pour l'instant. Et grâce au programme Mangeurs-Mangeuses, l'idée, c'était de pouvoir lancer ces ateliers. Les trois premiers, il n'y avait pas de commande possible. Et maintenant, on fait de l'offre de traiteurs à emporter. Et donc, de pouvoir lancer ces ateliers et peut-être de les pérenniser à partir de l'année prochaine, si ça fonctionne. Mais en tout cas, c'était une aide pour un test de lancement.
À vous entendre, au sein de ce qui est proposé pour ces rencontres de repas, il semble qu'il y a un réel besoin d'éducation culinaire pour certaines personnes dans le Diwa. Est-ce que ça, c'est un réel problème ?
Alors, je dirais qu'il y a un besoin peut-être d'échange au départ, plutôt que d'éducation. En tout cas, avec les personnes que nous, on accueille, qu'on accompagne et qui sont là pendant les ateliers, on n'a pas du tout les mêmes cultures culinaires. Et parfois, comme je disais, il y a aussi des personnes pour qui le français, enfin, la plupart des personnes qu'on accueille, le français, ce n'est pas leur langue native. Donc, il y a aussi un besoin peut-être plus d'éducation aux mots de la cuisine, je dirais, qui ne sont pas toujours un vocabulaire facile, hein, même pour nous. Donc, il y a cet aspect-là. Et puis, voilà, il y a aussi peut-être aussi le type de produit et la manière qu'on a de manger, nous, ici. Ce qui est intéressant, c'est de pouvoir... Oui, avoir des échanges, l'encadrante qui mène les activités de cuisine, elle n'est pas seulement... L'échange ne se fait pas que dans un sens. Il y a aussi des personnes qui participent aux activités, enfin à l'atelier, qui proposent des recettes ou des manières de faire.
On a pu faire le constat qu'il y avait des gens qui n'avaient plus ou n'avaient pas envie de cuisiner pour plein de raisons différentes et qui sont parfois, voire souvent, de la solitude... de l'isolement, du manque de temps, du manque d'argent, et pas mal de manques qu'on a pu en tout cas identifier. Et on s'est rendu compte que, et je pense que c'est un constat qui peut être fait partout en France, hein, et dans plein d'endroits dans le monde, mais ça nous a assez marqué, c'est qu'il y avait aussi dans des milieux comme le Diwa, qui sont des endroits où il y a un engagement dans l'assiette, où il y a un engagement à la terre, où il y a de la diversité, de la richesse, où on est en milieu rural, et ben malgré tout, il y a aussi de la tristesse dans les assiettes. Parfois, c'est pas de la tristesse, c'est juste du manque de choix. Et qu'on s'est dit qu'il fallait qu'on puisse au moins ouvrir la possibilité de choisir. Pour toutes les personnes. Et ça pouvait passer par de la cuisine, ça peut passer par plein d'autres choses. Par contre, on n'a pas du tout identifié qu'il y avait des gens qui ne savaient pas cuisiner ou qui s'alimentaient mal par choix ou par manque d'éducation. C'était pas tant cette question-là.
Il y a donc pour ça des objectifs et pour les connaître, il y a aussi des possibilités d'utiliser ce potentiel de territoire en matière d'alimentation, donc l'agriculture et l'alimentation. Un travail qui est déjà bien avancé avec des projets à venir peut-être. J'entendais parler d'un laboratoire de transformation peut-être à venir pour les productions locales. Yves Bragel, vous en charge du programme Mangeuse-Mangeur, quelles ont été vos tâches pour mettre en place ces repas en commun?
Du coup, ces tâches, c'est de la coordination de ce programme. Donc, tout d'abord, ça va être de bien garder le dialogue avec chaque association au long de l'année, pour chaque structure, pour laisser la porte ouverte aux besoins qui pourraient y avoir, donc en termes de soit de communication autour de l'événement à travers donc le réseau de la Comcom, la communauté de communes, donc garder aussi le lien pour de l'aide au niveau de l'organisation, et aussi ce qu'on apporte, c'est on peut proposer des partenariats à des associations qui souhaitent organiser un événement et qui se demandent sur le territoire, vers quel partenaire se tourner pour pouvoir inviter des personnes sur ce repas partagé, inviter des personnes qui sont éloignées de l'alimentation locale. Donc le premier but ce n'est pas de toucher les personnes qui sont déjà sensibilisées et qui mangent déjà des produits locaux de qualité tous les jours. Voilà. Et ensuite, donc ça va dépendre de chaque événement que j'accompagne, que nous accompagnons, parce qu'il y a des structures qui vont être plus autonomes, beaucoup plus organisées, et d'autres pour lesquelles il va falloir accompagner aussi même à l'organisation de l'événement, au déroulé de l'événement.
Donc en partenariat, on peut citer les popotes du dimanche.
Oui.
Il y a la Corderie qui ouvre aussi ses locaux. Je crois qu'il y a eu la maison intergénérationnelle à Pluviane, il me semble aussi, qui ouvrait sa cuisine pour une préparation de repas en commun, je crois.
C'était dans le cadre d'autres événements, mais on les a suivis aussi. C'était dans le cadre de la semaine de l'alimentation qui était organisée par le département. En effet, avec la maison de famille Solia et l'accueil de jour.
Et donc, par exemple, sur les popotes du dimanche, le lien qu'on a pu faire, ça va être la prochaine popote qui sera le 2 juillet à Miscon. Et donc, ils sont en partenariat avec l'espace social et culturel du Diwa et l'espace de vie sociale de Luce, donc le 101.7. Et ils vont venir proposer le repas sur une fête qui est déjà organisée, c'est la fête de l'alimentation locale, il me semble.
Pauline, je vais vous laisser bientôt, mais avant de partir, l'association La Trame est impliquée sur la plupart de ces propositions de dates à venir.
Alors nous, on n'est pas impliqués sur la proposition du 2 juillet, parce que nous, on propose les ateliers dont je parlais tout à l'heure, et on fait de la vente au public, donc le jeudi midi à l'issue de ces ateliers. Donc nous, notre prochaine date, c'est le 22 juin, donc jeudi 22 juin. Donc c'est le dernier atelier de l'année scolaire. Après, les ateliers reprennent en septembre. On ne vendra pas de repas en juillet-août. Et donc pour réserver un repas pour le jeudi 22 juillet, vous pouvez écrire un mail à latrame26@protonmail.com ou envoyer un message au 06 12 17 18 23. Voilà, c'était le petit moment de pub. Ce sera sûrement un chili, mais je n'en dis pas plus.
La Trame, est-ce que vous avez eu une prise de conscience du travail que vous avez accompli et qui reste encore à accomplir?
Surtout du travail qui reste à accomplir, je pense. Mais oui, le week-end dernier, on a fait aussi à manger pour un gros événement à Sainte-Croix. Et on voit qu'il y a des équipes de cuisine qui commencent avoir l'habitude de travailler ensemble, avoir l'habitude d'utiliser certaines recettes. Voilà, il y a des recettes qu'on travaille en atelier le jeudi, qu'on utilise ensuite sur des prestations traiteurs plus importantes. On a fait traiteur pour un mariage aussi il y a peu de temps. Et donc, de manière très pratico-pratique, des samosas, des cookies, des choses qu'on avait fait en atelier, on les a refaites. Donc on voit que ça fonctionne, que ça avance et qu'il y a des gens à qui ça fait plaisir, en tout cas, de cuisiner.
Qui agit donc au sein de la trame et aussi pour y participer ou prêter main forte, comment vous joindre ou vous contacter ?
À la trame, on accueille actuellement 5 personnes, peut-être 6 bientôt, qui sont donc les compagnons ou les compagnes de la trame, qui participent à toutes les activités, à la cuisine. Et après, on a un conseil d'administration de 7 personnes et on est 2 salariés, moi et Benjamin. Et il y a tout un tas de bénévoles qui nous aident sur plein de choses. Donc là, on parle de la cuisine, mais ça peut être aussi sur des démarches administratives, des cours de français ou d'autres choses, du bricolage, etc. Et donc, si vous avez envie de nous donner un coup de main en tant que bénévole, hein, on n'ouvre pas de nouveaux postes salariés pour l'instant, que ce soit sur de la cuisine ou sur autre chose, même adresse mail, vous pouvez écrire à latrame26@protonmail.com ou alors vous pouvez passer nous voir dans notre local au 12 rue Émile Laurens. Il y a des très belles feuilles de ginkgo, c'est facile à repérer.
Il y a donc aussi l'évolution de la consommation locale. Qu'est-ce qui a été pris en compte ? Est-ce que vous avez aussi une conscience des améliorations à apporter sur ce secteur de l'alimentation dans le Diwa ?
Plusieurs pistes donc, pour l'alimentation sur lesquelles on travaille avec ce programme Mangeuse-Mangeur. C'est donc les gens qui ne consomment pas ou pas beaucoup de local, donc ça peut être pour plusieurs raisons, comme l'a dit Anne tout à l'heure aussi. Et donc des pistes de travail, ça va être déjà sur l'aspect financier, donc comment se procurer des aliments locaux à un prix raisonnable. Et pour ça, donc les événements du programme Mangeuse-Mangeur permettent, en tout cas au moins lors d'un repas ou lors d'une journée, de bénéficier d'un repas et aussi d'échanger en fait entre mangeuses et mangeurs, parce que toutes les possibilités ne sont pas toujours connues pour s'alimenter en local autour de chez soi. Et c'est aussi donc il y a l'aspect financier, mais c'est aussi toute une démarche de s'intéresser en fait aux producteurs locaux et de connaissance des alternatives qui existent. Et donc lors des événements, nous mettons en valeur aussi tous les producteurs, mais aussi les circuits de vente, de commercialisation, à travers lesquels on peut se fournir en aliments locaux.
Et je rebondis sur ce volet, cet aspect financier. À partir de la rentrée de septembre, on a aussi d'autres projets sur le programme Mangeuse-Mangeur qui vont être déployés. Notamment, je pense à un projet qui est monté en partenariat entre l'association VRAC Drôme, le magasin de producteurs Le Silo et le CCAS de Die, et qui va permettre de faire une expérimentation de sécurité sociale de l'alimentation en proposant une caisse commune alimentaire qui sera proposée pour un temps donné à une petite partie de familles qui sont accompagnées par le CCAS et qui leur permettra de s'approvisionner en produits locaux pendant quelques mois pour expérimenter ce genre de dispositif.
Il y a aussi l'accès au foncier pour les producteurs également, pour une production locale et maraîchère, ou peut-être même d'élevage aussi.
Alors c'est bien sûr, quand on parle d'alimentation, on parle d'agriculture. Hein. C'est un lien qui est très intime et qui est évident. Le projet alimentaire territorial, vous en avez cité quelques objectifs tout à l'heure. C'est un programme qui est immense. Recréer du lien avec l'alimentation locale, même sur un tout petit territoire comme celui du Diwa, c'est beaucoup pour une communauté de communes comme la nôtre. On a souhaité pour l'instant se concentrer sur des actions qui ont été priorisées hein, par l'ensemble des habitants du Diwa. On a fait un gros travail d'atelier participatif. Et pour l'instant, la communauté de communes, elle s'est concentrée sur les actions qui avaient été priorisées par les habitants et qui sont des actions qui sont tournées à la fois sur le soutien à l'installation agricole. Et on va relancer normalement un programme d'animation autour de l'installation transmission, qui n'existait plus sur le Diwa depuis une petite dizaine d'années. On va se concentrer sur, vous en avez parlé tout à l'heure, la possibilité d'essayer de développer des ateliers de transformation, parce que quand on veut multiplier les aliments locaux sur un territoire, et bien il faut qu'on soutienne les agriculteurs, et notamment sur des unités de transformation, parce que c'est comme ça aussi qu'on valorise les produits et qu'on peut les proposer à différents acheteurs, et notamment je pense à la restauration collective par exemple. On va se concentrer aussi sur la restauration collective. C'est un gros enjeu sur notre territoire. On a des enfants qui mangent très bien sur le Diwa le midi à la cantine, et puis d'autres qui mangent à leur faim, bien sûr, mais qui mangent moins de produits locaux, moins de produits durables que d'autres. Et ça, il faut qu'on arrive à y répondre. Donc on a tous ces objectifs-là qui sont déjà des objectifs très grands, qui ont été priorisés par les habitants du Diwa. On s'interdit aucun sujet, mais pour l'instant, le sujet du foncier n'a pas été priorisé dans le cadre du projet alimentaire territorial, et on n'a pas d'actions qui ont été fléchées dessus. Par contre, on a des actions qui ont été fléchées sur l'animation de ce programme d'installation transmission, mais aussi sur la question de l'eau et de l'irrigation agricole, qui est un sujet d'actualité, en tout cas qui nous a tous fait trembler l'année dernière et qui continuera de nous préoccuper dans les années à venir, malgré tout ce qui pleut en ce moment. Voilà.
Face à toutes ces propositions qui émanent de ce projet alimentaire de territoire, quel est l'écho de la part des professionnels sur le Diwa devant ces propositions, et l'engagement qu'on peut y trouver de leur part?
Déjà, peut-être avant de parler d'écho, l'agriculture, l'alimentation durable sur le Diwa, elle s'est faite sans nous, sans les programmes que sont les projets alimentaires territoriaux, sans les techniciens.
Je reviens juste un peu sur la notion de culture bio. Je crois que ce n'est pas la totalité de ce qui est proposé en agriculture du Diwa. D'ailleurs, il y a une légère stagnation, je crois qu'on tourne à 55% d'agriculture bio sur le secteur, mais est-ce que ce projet alimentaire a touché aussi ces 45% d'agriculteurs conventionnels ?
Nous, on allait. Moi, j'ai essayé d'aller voir le plus de monde possible. J'ai pas encore fait le tour de toutes les exploitations. On a 430 exploitations dans le Diwa, c'est beaucoup. Mais je suis allée voir. Je suis allée pas mal sur le terrain et je suis allée voir tout. Les types d'exploitants, à la fois des conventionnels, des bio, des éleveurs, des producteurs, des productrices. On est allé voir des paysans boulangers. Enfin, je veux dire, on est allé voir tout le monde. Et moi, j'ai toujours été très bien accueillie, je dois quand même le dire. On m'a apporté beaucoup de connaissances, il y a eu beaucoup d'échanges. Il n'y a pas eu tant d'attentes exprimées par les agriculteurs sur ce type de projet, mais je pense que c'est normal, parce que ce type de projet, au début, ça fait un peu... je ne sais pas si ça fait peur, mais c'est pas très concret. Et là, on commence tout juste à rentrer dans le concret avec le projet alimentaire territorial, parce qu'il y a eu un diagnostic, parce qu'il y a eu des ateliers participatifs. On a beau monter des programmes comme Mangeuse-Mangeur, c'est plein de petites briques qu'on met les unes après les autres. Mais pour l'instant, on n'est encore pas dans l'action qu'on va monter, la levée de fonds, les recherches de financement. Et du coup, je pense que pour l'instant, les gens attendent encore de voir ce que ce projet va créer. Rendez-vous dans 3 ans. Déjà, ce sera peut-être une première étape pour se dire qu'est-ce qu'on a réussi à faire, et est-ce qu'on a réussi à répondre aux attentes, ou en tout cas aux envies que les gens avaient sur le territoire.
mangeuse, mangeur, donc en coordination par Yves, cela permet aussi au public, aux consommateurs, de prendre conscience aussi de l'alimentation bio. Mais le contexte se révèle actuellement un peu difficile pour la filière bio. On constate une stagnation, voire une baisse aussi de la consommation bio, du moins au niveau de la grande distribution. Est-ce que cela peut être aussi perçu dans le domaine de la distribution des circuits courts actuellement?
À l'échelle locale, en tout cas, j'ai pas eu de remontée donc de diminution de l'offre en bio dans tous les villages sur lesquels on a cherché à trouver des producteurs pour nos événements, en tout cas. Après, c'est vrai que c'est une question qui, je pense, qu'il doit être étudiée peut-être à plus grande échelle pour voir sortir des...
Et pour nuancer peut-être, en fait, on sait aussi que c'est un petit peu comme le plateau dont on a parlé tout à l'heure, des 55% d'agriculture bio dans le DIY. Enfin, je parle de plateau parce qu'il y a toujours un moment quand il y a une croissance, il y a un moment où tout d'un coup on va arriver sur un plateau, on ne peut pas toujours être en croissance. Dans le DIY, la consommation bio, elle a augmenté quasiment, enfin c'est des augmentations à deux chiffres quasiment chaque année depuis 10 ans. Donc c'est une très très forte augmentation. Donc là, on arrive peut-être à un moment de palier. On n'a pas eu avec Yves effectivement d'informations de baisse. On a eu des informations que la croissance baissait, mais pas de chute de la consommation. Et le deuxième point qui vient aussi nuancer ça, c'est qu'on sait aussi que l'inflation qui a touché beaucoup les produits conventionnels a moins touché l'agriculture bio. Alors, les produits bio ne sont pas arrivés au même tarif que la plupart des produits conventionnels, mais en tout cas, ils ont moins augmenté. Et donc, ça a probablement aussi maintenu la consommation à des chiffres qui restent plutôt stables. En tout cas, on n'a pas ce ne sont que des sentiments, mais dans le DIY, on n'a pas eu de sentiment que ça chutait.
On peut le constater sur le marché. Il y a une grande fourniture et puis aussi des distributions alimentaires, notamment hier devant le lycée. Il y avait aussi quelques produits locaux en vente. Et ça, c'est un rendez-vous donné tous les lundis.
Oui, du mois de juin au mois de septembre, il y a en effet un nouveau marché de producteurs qui était à Chapia avant et qui s'est déplacé devant le lycée de 10 et tous les lundis soirs.
Le public, on parlait aussi des moyens financiers pour la consommation, parce que on peut quand même dire que le bio est relativement plus cher que l'alimentation que l'on trouve dans les grandes surfaces. Est-ce que justement il y a aussi cette prise de goût pour le bio, pour le produit local à faire découvrir encore à de nombreux publics? Est-ce que le public, d'ailleurs, a répondu un peu sur cette proposition de projet de territoire?
Je pense qu'on n'a pas encore assez de recul pour savoir si les premières actions, je vous ai dit, on n'est pas encore dans les grandes actions du projet alimentaire territorial. Là, on fait des expérimentations, on n'a pas encore assez de recul pour savoir si ça a eu un impact sur la consommation.
Ce que je voudrais savoir, c'est le public qui vient à toutes ces animations. Il y en a qui sont déjà partie prenante, mais il y en a aussi qui sont là à découvrir aussi ce domaine. Est-ce que vous percevez quand même une augmentation d'un public qui est en recherche justement de cet aspect bio et de respect de la biodiversité pour se nourrir?
Sur chaque événement, en tout cas, c'est vrai qu'on essaye d'inviter le plus possible les producteurs pour faire du lien entre les consommateurs et les producteurs pour que de telles considérations puissent être mise en avant au niveau de la consommation. Pourquoi consommer bio, pourquoi consommer local? Et c'est vrai qu'on a quand même pas mal de retours de personnes. Après, c'est surtout au niveau de la découverte de produits, la qualité gustative des produits locaux, je dirais. Et peut-être dans un second temps, l'aspect environnemental de la consommation locale.
En tout cas, la découverte, je crois qu'il y a un truc qui se passe quand même dans ces moments-là, c'est de découvrir qu'il y a des produits qui sont faits pas très loin de chez nous et de toutes les personnes qui viennent manger. Parfois, il y a des découvertes qui sont assez étonnantes et qui donnent probablement à réfléchir et à ensuite peut-être enrichir le choix qu'on va pouvoir faire d'aller vers des produits locaux. Mais ça va probablement se faire sur du temps un peu plus long que sur une expérience.
Vous parliez de l'eau également, hein, qui est nécessaire à cette agriculture et à l'alimentation surtout. Quels sont les chemins que vous suivez ou que vous proposez peut-être pour une réflexion sur cette utilisation de l'eau, que ce soit au niveau de l'agriculture ou au niveau de la consommation publique même?
Alors, c'est une question qui est assez vaste et qui est déjà très réfléchie dans pas mal d'organes. Hein. On a la clé qui agit sur le territoire. Nous, ce qu'on s'est juste dit quand on a mis un pied dans ce projet alimentaire territorial et qu'on est... on a mis un pied dans ce projet alimentaire territorial et puis il y a eu la sécheresse de l'année dernière. On s'est rendu compte que de l'eau pour l'irrigation agricole, en tout cas dans le Diois, on va être très vite en insuffisance. On va pas pouvoir inventer de l'eau et la multiplier. Et on a un territoire qui est très peu irrigué déjà. Et la question se pose mais si on veut augmenter notre production vivrière, nourricière, et qu'on a besoin de plus d'eau, comment on fait? Et mathématiquement, ça ne va pas être aussi facile que ça. Donc, on sait déjà... notre première étape, c'est de se dire comment on fait pour... bien comprendre tous les enjeux de l'eau, avoir un niveau de connaissance qui est le même pour tous. Et ensuite, bien sûr, essayer de, si on doit essayer de négocier des autorisations de prélèvement en eau pour des nouveaux installés, comment on fait pour orienter vers des productions qui vont être moins gourmandes en eau, vers des pratiques qui seront plus durables. Donc on est plutôt pour l'instant dans effectivement, à une étape de réflexion, de formation, de structuration d'une connaissance collective sur ces enjeux-là, avant de rentrer dans des actions, parce que ça nous... pour l'instant, les décisions qui sont prises sur l'irrigation agricole, elles ne sont pas prises par des collectivités territoriales.
La Chambre d'agriculture de la Drôme est également en partenariat sur ce projet de territoire alimentaire. Quel est son apport et quelles sont aussi peut-être ces mutations qu'elles sont devoir venir peut-être parce que l'air du temps veut qu'on ait une agriculture plus raisonnée et plus respectueuse de la biodiversité et de tenir aussi compte du climat, du changement climatique.
On est en effet en partenariat, on a travaillé sur le diagnostic agricole et alimentaire toute l'année dernière avec la Chambre d'agriculture. Ce que je peux vous dire de ce travail collectif, c'est que vraiment on l'a fait avec beaucoup d'échanges, avec des actrices, parce que j'ai travaillé avec deux femmes qui sont Estelle et Nina, qui étaient très présentes sur le territoire, sont venues sur le terrain, qu'on travaillait avec, d'une manière très partenariale, avec beaucoup d'échanges. Et je crois savoir, je le sais, que les préoccupations qui sont les nôtres sont aussi évidemment celles de la Chambre d'agriculture, en tout cas les problématiques d'eau, d'agriculture durable, de biodiversité sont des problématiques qui sont discutées au sein de la Chambre d'agriculture. Après, je ne suis pas porte-parole de la Chambre d'agriculture et je ne pourrais pas m'avancer plus, mais en tout cas, nous, on a vraiment travaillé de manière à essayer de mieux connaître le territoire et avec cette volonté d'avancer toujours mieux, de se dire que on a 55% d'agriculture bio sur le territoire du Diois. Comment on fait pour aller plus loin ?
Yves, par rapport à ces ateliers proposés depuis quelques mois donc sur mangeuses mangeurs, est-ce que vous pensez à une optimisation, voire une pérennisation de ces ateliers dans la durée, et notamment sur le Haut-Diwa, et de manière aussi peut-être à amener un peu de convivialité et aussi de la relation entre les populations?
Oui, donc, déjà, la convivialité, c'est aussi un peu le but de tous ces événements. Donc, c'est autour de l'alimentation locale, essayer de rassembler, donc, quand on est dans les territoires plus ruraux, donc le Haut-Diwa, la vallée de la Roanne, l'Ouse-la-Croix-Haute, par exemple. Donc, c'est d'essayer de rassembler vraiment le plus possible d'habitants et d'associations autour de ce repas. Par exemple, pour citer par exemple les popotes du dimanche à Die, c'est chaque mois maintenant, c'est la troisième popote qui a eu lieu ce dimanche. Donc, c'est un rendez-vous mensuel sur un dimanche, de venir partager un moment de convivialité, un repas local cuisiné ensemble. Et ça a vocation, en tout cas, à perdurer jusqu'à la fin de l'année 2023. Et c'est un repas qui approche de l'équilibre économique, donc qui est assez viable. Et ensuite, il faut savoir que le programme Mangeuse-Mangeur sera reconduit l'année prochaine. Donc le jury de ce programme se redécidera quelles actions, se concertera pour décider quelles actions prioriser. Est-ce qu'on repart sur les mêmes actions que cette année ? Est-ce qu'on essaye de se concentrer plus sur quelques actions et leur allouer un plus haut budget ? Après, il y a quand même d'autres événements qui ont une vocation plutôt ponctuelle et qui ne sont pas forcément amenés à durer. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à chaque fois, en tout cas, ça crée des partenariats et ça interroge même les acteurs des associations, les salariés, autour de la question de l'alimentation. Et donc ça, c'est une porte ouverte pour les années qui suivent à reconduire des actions dans ce type-là.
Cette activité de coordination pour ce programme Mangeuse-Mangeur vous amène donc à parcourir le territoire, aller aussi au-devant des acteurs de l'agriculture et puis aussi des consommateurs.
Oui, bah parfaitement. Donc, déjà, j'ai eu beaucoup de connaissances d'agriculteurs, donc, puisque chaque événement essaye de s'approvisionner le plus possible en local, donc avec les producteurs des villages, par exemple à La Motte-Chalancon pour le repas du 19 juin prochain. Je suis allé sur le marché, j'ai fait le tour au téléphone des producteurs alentours pour voir si on pouvait avoir leur produits sur le repas, mais aussi pour les inviter à venir discuter avec les consommateurs lors de ce repas. Et donc j'ai observé la grande diversité des productions sur tout le Diwa et la qualité des produits qu'on peut trouver. Il y a quand même une offre assez très importante. Et même au niveau des magasins de producteurs, on a quand même on est sur un territoire où c'est un point fort pour organiser des événements comme de ce type-là, donc autour de l'alimentation locale.
Alors, on peut rappeler aux auditeurs les prochains rendez-vous organisés donc sur le Diwa pour ces repas dans le cadre du projet alimentaire du territoire.
Oui, donc comme je le disais, le lundi prochain, 19 juin, c'est à La Motte-Chalancon qu'aura lieu à 12h30 un repas organisé par la corderie du Pays Diwa et l'espace social et culturel du Diwa, qui sera suivi d'un compte. Donc c'est sur la place de la mairie et c'est un repas uniquement à base de produits locaux, et vous pouvez venir faire le marché à La Motte et bénéficier du repas ensuite.
Avec une préparation commune aussi de ce repas.
Oui, donc le repas est aussi, il y a un atelier de cuisine avant, et pour lequel on a besoin d'ailleurs de bénévoles, et c'est en partenariat avec le foyer Claire Matin, qui est à 1 km au-dessus de La Motte-Chalancon, qui nous ouvre sa cuisine, et on cuisinera donc avec aussi des résidents de ce foyer.
Donc les bénévoles peuvent s'inscrire auprès de Yves. Oui. Toutes les informations sont sur le site internet de la communauté de communes.
C'est ça.
Et puis d'autres dates, on parlait du 22 juin également.
Donc le lundi 22 juin prochain, c'est de nouveau un repas qui est proposé par l'association La Trame. Donc on a eu Pauline tout à l'heure. Et donc c'est un repas à emporter qui sera vendu, qui est cuisiné donc par l'association et par les membres de l'association qui ont été formés depuis le début de l'année. Et donc là aussi, c'est des produits locaux et des recettes. Donc ce sera
un chili, a-t-elle dit, et il faudra réserver la veille. Ouais.
À réserver la veille.
Un petit correctif par rapport à cette date, hein, parce que Pauline, lors de son intervention, parlait du 22 juillet, donc on ramène au 22
oui.
juin. Hein,
oui,
voilà.
22 juin.
Et puis le 2 juillet, ça sera à Miscon.
Oui, c'est ça. Donc c'est les popotes du dimanche qu'on a eu pour 3 dimanches à 10, cette fois-ci partent à Miscon. Donc c'est dans le cadre d'un événement plus large que sur Passe, et toute la journée, une fête de l'alimentation locale, donc avec... plusieurs stands, tous les producteurs locaux représentés.
Organisé par le 101.7.
Organisé par le 101.7.
Et
donc le midi, donc le principe de ces popotes, c'est venez nombreux dès le matin, dès 10h, pour aider à la cuisine. Donc c'est un moment très convivial avec de la musique. Tout le monde cuisine ensemble dans des grandes popotes. Et donc des ingrédients locaux. Et ensuite, le repas partagé à prix libre, sans inscription. C'est pour environ 60 à 100 participants pour chaque édition jusqu'ici. Et la prochaine popote ensuite, ce sera aussi toujours en juillet, mais le 18 juillet dans le quartier de Pluviane à Die. Et il y en aura les mois en août, en septembre, les mois qui viennent. Le 5 juillet, donc c'est dans le local de l'accorderie rue Camille Buffardel à Die. Donc chaque mercredi, l'accorderie propose un repas partagé. Vous venez avec vos aliments et vous les partagez. Et ce mercredi-là, il y aura un achat d'aliments locaux en amont. Et donc l'idée, c'est de venir cuisiner aussi le matin dans la cuisine de l'accorderie et de partager ce repas solidaire et local.
Juste une petite chose, là, semble-t-il, il y a des organisations pendant l'été aussi. Est-ce que on pourrait envisager aussi des activités à l'adresse des touristes, de manière aussi à leur faire prendre conscience de cette problématique ?
Ben, les popotes du dimanche, par exemple, sont ouvertes à toute personne. Hein. On ne demande pas la carte d'identité pour savoir si les gens habitent dans le Diwa ou pas. Donc, par exemple, les popotes du dimanche, la prochaine qui aura lieu à Miscon, le 2 juillet, elle sera ouverte à tous. Je pense qu'en juillet, à 10, elle sera également ouverte à tous. On aura aussi une rentrée dès le mois de septembre qui sera assez active avec des projets qu'on attend beaucoup, le retour de la fête des voisins. De COCOS qui sera co-organisé par le Silo, l'association du comptoir des lettres et l'association Vrac Drôme. Et on aura également une randonnée pique-nique dans la vallée de la Roanne organisée par l'EVS Tourisme Info Service de la vallée de la Roanne.
Et ce, à partir de septembre.
À partir de septembre, on vous donnera les dates bientôt.
Et ce sera l'occasion aussi de vous réentendre à ce moment-là, peut-être, pour annoncer plus longuement ces prochains rendez-vous.
Avec plaisir.
Yves Brajeul, je vous remercie, et ainsi qu'Anne Rouche, d'être venu sur Erdiwa pour nous parler donc de ces avancées sur ce projet alimentaire de territoire, notamment celui du Diwa.
Merci à vous.
Merci.
Merci aussi. Thank you.